L'un des trois textes qui nous sont proposés aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc se trouve au chapitre 4, les versets 14 à 21. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit-Saint. On se mit à parler de lui dans toute cette région, il y enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude, il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles, le retour à la vue pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire « Ce passage de l'Écriture est accompli aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. » Si l'on devait dire ce que doit être un début idéal de ministère, on pourrait penser, c'est le conseil qu'on donnerait à un débutant, d'y aller gentiment, de commencer petitement, doucement, modestement. Alors qu'ici, même si les déclarations de Jésus ne font pas de bruit ou pas beaucoup de bruit, elles en feront un peu après et beaucoup, il s'agit en réalité d'une remise à plat extraordinaire. C'est le sens du texte que Jésus relit pour ses auditeurs de ce jour-là, un jour de sabbat. Ceux qui l'écoutent ne verront bientôt, assez rapidement, qu'une provocation dans ses propos, alors qu'ils sont tirés de textes connus, lus, relus, récités depuis très longtemps. Rien de surprenant là-dedans, et pourtant, ce sera tout de même, encore une fois, une pierre d'achoppement, comme on dit, c'est-à-dire une occasion de chute ou de scandale, d'incompréhension. L'épisode du jour se situe entre la tentation au désert et les vrais débuts du ministère de Jésus, à un moment où sa parole peine un peu à trouver sa vraie autorité. On trouve même un début de défiance un peu plus loin lorsqu'il s'agira de reconnaître qu'aucun prophète n'est bien accueilli par les siens. Mais pour l'heure, Jésus est à Nazareth, dans la synagogue de sa ville natale, où il commence à lire le prophète Ésaïe, au chapitre 58, les versets 6. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a choisi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Voilà ce qu'il relie devant ce public qu'on n'a pas besoin de convaincre ou de conquérir, puisqu'il connaît déjà ce texte. Ce qui ne passe pas, c'est évidemment la drôle de prétention de la part de Jésus et de revendiquer pour lui. Dans d'autres évangiles, il le fait d'une autre manière. « Moi et le Père, nous sommes un », par exemple, chez Jean. Mais ici, c'est « Dieu m'a choisi » devant les siens et leur certitude que l'élection concerne toujours un peuple entier. On n'est jamais élu tout seul. C'est un peuple qui est élu en entier. L'idée que le choix de Dieu pouvait se concentrer en quelque sorte sur une seule personne a dû effectivement en choquer plus d'un. Même si dans l'histoire de la tradition hébraïque, il y a aussi des personnages particuliers qui sont saisis dans un songe, qui sont effectivement choisis comme ça pour aller choisir le nouveau roi, par exemple, comme Samuel, ou comme pour aller parler en tête à tête sans crainte, a priori, au roi David, comme le prophète Nathan et quelques autres, évidemment. On pouvait se choquer de cela, et à bon droit d'ailleurs, puisque c'était d'une prétention assez extraordinaire. La tradition prophétique, si on la lit sur la longueur et assez exhaustivement, n'a jamais fait l'apologie des autoproclamés. Au contraire, elle a mis en place des procédures de nomination, élection, vous savez, ces choses, ces procédures qu'on met en place pour que les choses se fassent bien. Et c'était très scrupuleux. C'est Dieu qui choisit, c'est vrai. mais il faut que cet appel soit reconnu, accepté et véhiculé par un personnage autorisé comme Samuel, Nathan et bien d'autres. Mais on le sait aussi, la foi des disciples, l'attachement particulier, la confiance particulière qu'ils avaient en Jésus, c'était déjà depuis un bon moment appuyé sur cette seule évidence, sur cette seule singularité. Oui, ça doit être lui. Avant même de se demander s'il était de nature divine, ça viendra plus tard, ils se sont fiés à leur certitude qu'il était un envoyé de Dieu. Ça, au moins, ils en étaient sûrs. Un descendant des prophètes. Pour eux, c'était évident. L'élu, c'est lui. On peut se demander si le choix de cette filiation était le bon. Parce que celui qui vouera sa vie à l'annonce d'une bonne nouvelle, devait-il vraiment se placer dans le droit fil de ceux qui ont passé tant de temps à en apporter de mauvaises, des mauvaises nouvelles? Les prophètes de l'Ancien Testament avaient en effet la rude tâche d'annoncer des drames à venir, tout en promettant qu'un petit reste assurerait le futur du peuple de Dieu, en particulier chez Ésaïe, bien sûr. Mais ici, pas de mauvaises nouvelles. Une seule bonne nouvelle, celle de l'année de grâce. C'est ça qui ponctue, qui termine ce passage. C'est-à-dire, si on remonte loin dans le temps, l'année du jubilé, celle où toutes les ardoises doivent être effacées. C'est de cela qu'il est question. L'année de grâce, c'est celle-là. Les prisonniers libérés, les terres redistribuées, les esclaves relâchés, sans obligation, libérés de leurs obligations, etc. C'était ça, l'année du jubilé. Une remise à plat rendue nécessaire pour que les sociétés humaines, à l'époque déjà, ne succombent pas à leurs propres excès, leurs déséquilibres souvent suicidaires. Et cette bonne idée de l'année de grâce n'était plus observée à l'époque de Jésus. Elle ne l'était pas non plus à l'époque d'Ésaïe, sinon il n'aurait pas jugé utile de la rappeler. En réalité, on peut vraiment douter qu'elle ait jamais été appliquée, où que ce soit, d'une manière scrupuleuse en tout cas, quelle que soit l'époque. C'est sûrement parce que l'effacement de toutes les dettes n'a jamais vraiment été souhaité par toutes sortes de gens qui auraient beaucoup à y perdre, que cette chose n'a jamais vu vraiment, vraiment le jour, sauf peut-être de manière embryonnaire. On peut même insinuer que l'opposition à Jésus, qui commence à se manifester, est justement un refus de voir revenir à la surface cette soi-disant bonne idée que tout le monde avait bien oubliée, et ça arrangeait pratiquement tout le monde. Beaucoup de choses ont résisté à sa réalisation. L'oubli de la loi par le peuple d'Israël a dû la faire passer rapidement à la trappe. La mise sous tutelle du pays par des puissances étrangères avait rendu inapplicable toute autre loi que celle de l'occupant. Donc elle devait être bien bien en dessous, au cinquième sous-sol, archivée, oubliée. Peut-on imaginer ce que ferait une redistribution des terres à l'échelle de tout un pays? Appliquée à la lettre, mécaniquement, elle figerait peut-être l'évolution de bien d'autres secteurs économiques. Elle serait d'ailleurs contestée sous cet angle-là. Vous ne vous rendez pas compte ce que ça impliquerait. La société est plus compliquée, plus complexe. Que nous apprend alors cette année de grâce, s'il faut conclure qu'elle est difficilement inapplicable quand on ne l'oublie pas? Si on compare le texte d'Ésaïe avec ce qu'en dit Jésus, on s'aperçoit déjà que Jésus ne se contente pas de citer, il interprète déjà le texte à sa manière. Il le détourne d'une certaine manière, pas pour nous dire qu'il a le droit de le faire, mais qu'il est le seul à le faire et que nous n'aurions pas le droit de le faire. Il le fait presque pour nous dire « Vous voyez ce qu'il faut faire ?» avec les textes que vous connaissez depuis longtemps. Il dit très exactement « Le Seigneur m'a choisi pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ». C'est ce qu'il lit quand il déroule le rouleau d'Ésaïe. Et puis, il commente « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ». En parlant d'une bonne nouvelle au singulier, Jésus montre que l'année de grâce n'est pas seulement l'application d'articles de loi en faveur des déshérités, et qu'il faut aller rechercher de temps en temps quand on voit qu'ils sont vraiment déshérités et que tout le monde s'en fiche. C'est surtout une nouvelle manière de voir qui englobe tous les cas de figure. Ce sera ça, la bonne nouvelle. Une loi avant tout spirituelle qui consiste à annoncer la grâce en toute chose, C'est autre chose qu'un principe de justice, même si c'est aussi précieux. Jésus ne déclare pas poursuivre l'œuvre des prophètes en proposant des remises de dettes provisoires ou des petites amnisties entre amis, des annulations de dettes ciblées, des réformes agraires ou des projets de soulèvement contre l'occupant. On le sait, ce n'est pas ce qu'il va proposer. Il s'agit plutôt d'ouvrir d'autres portes, libérer de la culpabilité pour mieux vivre d'espérance, libérer d'un monde trompeur et indifférent pour mieux le subvertir par une présence authentique et bienveillante. Quand on le dit comme ça, on a l'impression que c'est un peu faiblard, un peu trop modeste. Mais quand on voit ce qu'on donnait dans l'histoire, les tentatives plus vigoureuses, parfois et souvent brutales, de changements radicaux, on se dit qu'une bonne nouvelle, encore en attente d'accomplissement, mais qui reste présente et qui n'est jamais oubliée, ça vaut mieux que toutes les tentations de renverser la table. Une question se pose pourtant, comme pour toute prophétie, est-ce qu'elle concerne un avenir encore indiscernable, un inaccompli peut-être lointain, ou bien est-ce la révélation de ces choses, que ces choses ont déjà commencé, que nous sommes provisoirement incapables de les identifier ou de leur donner corps? Déjà ou pas encore? Et dans quelle mesure? La question est importante parce qu'il s'agit de savoir si Jésus, en faisant cette provocation devant un auditoire qui connaît pourtant le texte de départ aussi bien que lui, si Jésus est un prophète parmi d'autres ou bien s'il est vraiment le Messie tant attendu. Conscient de l'enjeu, Jésus répond pour nous « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est peut-être aussi, en partie au moins, la netteté de la réponse qui a choqué. Comment peut-on oser dire une chose pareille alors que rien ne change de manière visible pour ce peuple-là à ce moment-là? Jésus répondra plus tard à cette autre question en s'adressant aux pharisiens. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, mais il est déjà au milieu de vous. C'est ici que la foi active entre en jeu. Fin de l'attentisme, de l'espérance passive régulièrement écrasée par les faits. Et ça, nous le savons. Mais place aux tentatives audacieuses, seules capables de donner, même si elles doivent parfois s'arrêter là, un avant-goût de royaume à un monde qui ressemble à tout sauf à ça. C'est parce que Jésus est le Messie attendu et non pas un prophète de plus dans la longue succession des gens qui se sont cassés les dents sur leurs propres promesses que notre foi active est un royaume déjà là. Nous ne sommes plus pauvres, ni captifs, ni aveugles. Nous voyons déjà un peu. Les ardoises sont effacées, tout est remis à zéro et comme le disait l'apôtre Paul, à la fois nous n'avons rien et nous possédons toutes choses, même si c'est difficile à dire à des gens qui n'ont strictement rien. En ce début d'année, nous avons eu largement le temps de peaufiner des projets, de nous préparer aux mois qui viennent. La pratique ancienne, oubliée aujourd'hui et qui consistait à annoncer que l'année commencée était l'an de grâce 2025, au hasard, était une manière de s'inscrire dans un royaume déjà là. C'est devenu une formule, et comme toutes les formules qui ne veulent plus rien dire, on a fini par s'en passer. Mais si on revient à sa signification, c'est cela que ça veut dire. Vous vivez dans une ère qui, après lui, est un royaume déjà là. Qu'allez-vous donc en faire de ce royaume déjà là? Aujourd'hui encore, si nous disons que nous sommes en l'an de grâce 2025, et en début de lettre, ça a de la gueule, n'est-ce pas, hein? Nous ne faisons pas référence au décompte habituel des années depuis la naissance approximative de Jésus. Point de départ qui paraît assez loin à la plupart des gens qui nous entourent. Nous nous inscrivons en disant l'an de grâce 2025 à tout autre chose, dans tout autre chose qu'un simple décompte. La grâce dont il est question ici, l'année de grâce ou l'an de grâce, la remise à plat, extraordinaire, nous fait voir à tout moment toute chose nouvelle, comme si nous avions le point de vue de Dieu lui-même. Ça aussi, c'est prétentieux, il faut oser quand même le dire. Eh bien, allons-y. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui nous y encourage et qui nous dit dans quel temps nous sommes l'an de grâce 2025. C'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. Amen.